Je pense qu'on a une génération qui a été élevée dans le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale et dans un refus de ce type de violence, et que je fais partie des gens qui ont pris le retour de la guerre en Europe en pleine figure, comme beaucoup de gens de ma génération, un petit peu indépendamment de la formation qu'on a reçue, ce qui fait que pendant... donc je suis allée enseigner, d'abord j'étais beaucoup engagée dans des mouvements contre la purification ethnique pendant la guerre en Bosnie, puis je suis allée enseigner là-bas en 96, et je suis allée plusieurs fois pour enseigner, et là j'ai fait l'expérience de la violence de l'après-guerre, et avec déjà une remise en question de beaucoup de nos certitudes qui sont celles de générations qui pensent la philosophie politique sans guerre. Et donc j'ai mené une forme de double vie pendant plusieurs années où je lisais des textes sur l'aide humanitaire, la justice internationale, et je continuais mon travail en philosophie du langage. Je ne savais pas comment faire à coïncider les deux parce qu'il y avait assez peu d'intérêt en philosophie en France pour ces questions-là. Walter n'était pas encore, le guerre juste n'était pas encore à la mode, ça n'est venu qu'après. Et donc, peut-être d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de voie royale du point de vue de la philosophie politique, je l'ai pris par une tangente, et qui était précisément la philosophie du langage. C'est-à-dire que j'ai abordé les questions de politique et de justice internationale par le biais de la philosophie du langage et de l'enquête de terrain. C'est-à-dire que j'ai mis en pratique la démarche de Quine et de Wittgenstein, c'est-à-dire de considérer que la philosophie commence avec la posture de l'anthropologue qui arrive sur le terrain pour comprendre les significations et comprendre d'autres significations. Et donc je me suis un petit peu mise dans cette situation-là, bon, qui était ça faisait longtemps que j'allais en Bosnie, 2002, ça correspond à l'entrée officielle, mais où je suis arrivée en Bosnie en tant qu'enquêtrice de terrain, pour faire parler les gens sur leur expérience des interventions internationales, interventions humanitaires, interventions de justice également. Et donc je dirais que c'est déjà la philosophie du langage m'intéressait par le biais des relations entre la philosophie et l'anthropologie. Ce qui m'intéressait, c'était quand même ça, c'était la philosophie du langage au service du déchiffrement de la langue de l'autre. Donc, j'ai utilisé les outils, enfin, je me suis servi des outils de cette philosophie-là pour aborder la question de qu'est-ce que c'est pour vous la justice. Et donc, avec des effets de décentrement intéressants, parce que ça, c'est des choses qui sont banales pour... J'ai fait l'apprentissage de l'anthropologue de terrain de base, qui arrive avec son questionnaire et qui se rend compte que les gens ne veulent pas répondre aux questions qu'on leur pose. Et donc, il faut apprendre à déchiffrer et à comprendre pourquoi les questions qu'on pose ne sont pas celles qui se posent eux. Et c'est à la fois, ou pourquoi ils y répondent, mais à leur manière. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on en arrive à remettre en question un certain nombre de présupposés de philosophie politique. Qui comprenait pour des évidences. Bon, d'abord, je pense qu'il y a des choses que j'ai apprises empiriquement sur la Bosnie, sur le fonctionnement de la purification ethnique ou autre, qui sont importantes par rapport à des discussions qu'il peut y avoir sur la nature de la guerre. Donc, je te donne un exemple. Il y a eu toute une discussion, et qui a toujours lieu, sur la question de la violence de ce type de guerre, de savoir si c'est une guerre entre voisins ou pas. Et donc, il y a une image qui est sur la guerre de voisinage, les voisins s'entretuent, la guerre intime. En fait, quand même, ce que j'ai pu voir, c'est que dans des municipalités où c'est l'instituteur qui a raflé, non, instituteur serbe, qui a raflé ses anciens élèves et collègues musulmans bosniaques qui ont tous été tués, en fait, quand tu auras les témoignages convergent pour le fait que c'est le voisin mobilisé. Et ça, D'abord, ça peut avoir. Il y a eu un processus de mobilisation. C'est pas, si tu veux, tu étais invité chez des gens pour le repas et subitement j'ai sorti ma Kalachnikov et j'ai tué tout le monde. Non, on est d'abord passé par un processus de mobilisation. Et donc, ça, c'est relativement important par rapport à. Bon, est-ce qu'on supprime l'État, tout le monde s'entretue? Non, pas du tout. C'est plutôt que c'est par un processus de mobilisation étatique que les relations humaines relativement solides qui existaient ont fini par rompre. Donc il y a tout un ensemble de faits assez fins sur qu'est-ce que c'est que la mobilisation, qu'est-ce que c'est que l'entrée en guerre, qu'est-ce que c'est que l'entrée en violence, qui peuvent avoir des répercussions philosophiques que tu vas remettre en question. Et on le voit, et comment même au niveau local, les institutions de mobilisation étaient des institutions étatiques avec les caractéristiques autogestionnaires et décentralisées de l'État yougoslave. Donc ça, il y a des éléments comme ça qui peuvent participer à une réflexion à la fois philosophique et historiographique sur qu'est-ce que c'est que de s'entretuer. Par exemple, il y a des fortes différences entre la Bosnie et le Rwanda. En Bosnie, je ne connais aucun cas où les gens se sont tués à l'intérieur d'une même famille. Ensuite, il y a toute la question du témoignage et de découvertes qu'on peut faire, notamment des découvertes par rapport à soi-même. Donc, j'avais passé beaucoup de temps avec des associations de victimes. Je vais dans une municipalité de Bosnie où il y avait beaucoup de jugements du tribunal pénal international et un fort nombre de musulmans bosniaques rentraient chez eux. Donc les gens étaient ensemble dans la même municipalité et la question était de savoir si la justice avait aidé à ce retour. Alors, déjà une découverte sur moi-même. Je discutais avec un jeune homme à qui je montre la liste des témoins et qui me dit « Ah ben celui-là, je le connais bien, tu pourrais le rencontrer. » Et je lui dis « Mais c'est un témoin de la défense. Hein. » Il me dit « Alors oui, ben, c'était mon dentiste. Hein. » Et j'ai dit « Ah oui, mais j'avais pas prévu de rencontrer des témoins de la défense. » Et j'ai surmonté mes propres réticences pour aller rencontrer des témoins de la défense, puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des condamnés. Les réponses que me donnaient les témoins de la défense à certaines questions, donc par exemple, comme je te l'avais dit, donc je posais à tous la question de savoir est-ce que vous avez été satisfait de témoigner, et les témoins victimes de l'accusation me répondaient « Oui, j'ai été satisfait, c'était une satisfaction morale, bon, mais ça a été temporaire, enfin voilà. » Tout un vocabulaire assez bien estampillé de catharsis, pas catharsis, bon. Et je pose la question au témoin de l'accusation qui ne comprenait pas ma question et il y en a deux, trois qui m'ont répondu « Ah oui, oui, non mais on a trouvé très bien le restaurant et l'hôtel. » D'abord, si tu veux, il y avait des moments de questionnaire et il y avait des moments d'immersion. Donc, il y a des gens que je connaissais bien, des associations de victimes que je connaissais bien, que je suivais. Le questionnaire, c'était quand l'immersion n'était pas possible. Mais néanmoins, si tu veux, c'est ça qui est très intéressant, tu vois, sur la question du décentrement. Je me suis toujours présentée comme professeure de philosophie à l'université de Montpellier, travaillant sur l'éthique et la justice internationale à tous mes interlocuteurs. Et ce qui m'aidait, c'est que j'avais enseigné la philosophie à Sarajevo, j'avais d'anciens élèves, ils pouvaient le savoir, voilà. Et les réactions quand j'allais dans les associations de victimes, ils me disaient « Ah oui, vous vous intéressez à l'éthique et à la justice internationale, mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Nous, ce qu'on va vous parler, c'est de l'immoralité et de l'injustice internationale. » Bon, ça, c'était déjà la première réaction. L'autre réaction, également intéressante, je voulais faire parler les gens de leur expérience de l'aide humanitaire. Et également rencontrer les employés locaux des associations humanitaires, les employés locaux des organisations internationales, qui s'étaient donc trouvés en position de médiateur entre les deux cultures, entre position d'aidant et d'aidé, avec une inspiration qui était partiellement celle de Boltanski dans La souffrance à distance. Je voulais trouver les médiateurs de cette distance-là. Et de manière très intéressante, ça a été extrêmement difficile de faire ça, parce que les gens ne voulaient pas me parler. Et je ne pouvais le faire que par amis d'amis, pour la bonne raison, c'est que eux, si je disais « je suis philosophe, je travaille sur l'éthique et la justice internationale et je veux que vous me parliez de l'aide humanitaire, ils ne voyaient pas le rapport. Parce que c'était tellement associé avec des trafics, des détournements, que c'est un peu comme si j'avais dit, voilà, je suis philosophe, je maîtrise l'éthique, et je veux travailler sur le crime organisé. Donc je me suis dit, bon, soit elle est folle, soit elle est idiote, soit elle nous ment. Elle est en position d'espion d'une ONG qui vient, l'ONG mère qui vient nous espionner. Ce qui fait que, c'est pour employer un raccourci, ça m'a été plus facile avec cette étiquette-là de rencontrer des criminels de guerre condamnés à la haie. Donc j'ai trouvé le nom dans l'annuaire où je les appelais, je leur ai dit bonjour. Je m'appelle Isabelle Delplat, j'avais appris le serbo-croate à ce moment-là. Et je sais que vous êtes allé à la haie, je travaille sur l'éthique et la justice internationale, est-ce que vous voulez bien qu'on en parle? Eh bien, aucun n'a refusé quand même. Donc ça amène quand même à réviser un certain nombre de nos catégories, et la plus manifeste de mon côté, c'était effectivement la catégorisation qu'on peut avoir, la vision de la justice pénale internationale qu'on a héritée d'Arendt. Parce que ça m'a frappé quand j'ai rencontré donc les 5 condamnés de la haie. En y réfléchissant, je me dis, mais c'est curieux quand même. Je ne sais plus si c'est pas Magali Besson avec qui j'étais qui m'a fait remarquer la chose. Je ne sais plus comment on en est venu à remarquer ça. Aucun ne se défend en me disant qu'il était un rouage dans la machine, ni qu'il était pris par le système, rien. Alors, c'était curieux, tu dis c'est bizarre, aucun ne m'a parlé du crime bureaucratique, rien. Et j'ai cherché pendant longtemps, j'ai quand même fini par remarquer que tous les schémas de, tu vois, du rouage dans la machine, de la logistique, avaient migré vers l'accusation. C'est-à-dire que si tu voulais accuser quelqu'un, tu montrais qu'il y avait une logistique. Que bon. Et donc j'étais un peu décontenancée. Jusqu'à ce que, mais il m'a fallu du temps, hein, parce que je suis philosophe, je ne suis pas juriste. Donc évidemment, je n'ai pas les réflexes. Hein. Je relis l'entretien avec l'un d'entre eux qui me dit, moi j'étais seule dans mon bureau, je ne voyais rien, la fenêtre était trop haute. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de secrétaire, je n'étais dans aucune organisation. Et là, révélation, je me dis, mais bien entendu, ils étaient tous accusés d'entreprises criminelles communes. Et ils étaient 5 dans le box des accusés. S'ils avaient commencé à plaider le système, qui à ce moment-là n'était pas prouvé, à dire qu'ils étaient un rouage dans la machine, ils prouvaient la machine, ils prouvaient le système. En l'occurrence, on savait que le système yougoslave communiste est extrêmement bureaucratique. C'était des États extrêmement organisés. Donc la question de la bureaucratie, du crime bureaucratique, de la hiérarchie, tout ça était en place. Hein, donc, et il y a des archives qui ont été trouvées. Donc là, en quoi ça m'a amené à une relecture du cas d'Arendt? Bon, c'est pas la seule chose qui m'a amené à une relecture du cas d'Arendt. C'est vrai que en voyant le film de Ronny Broman, un spécialiste, il y a en 99, j'ai plutôt vu ce que, le contraire de ce qu'il voulait nous montrer, c'est-à-dire au lieu d'un Eichmann arendtien, j'ai vu quelqu'un réfléchissant très vite. On voit quelqu'un qui réfléchit. C'était la première fois que je voyais un Eichmann réfléchissant et on voit quelqu'un qui calcule ses réponses. Et donc pas du tout quelqu'un qui est juste en train de avec des œillères. Donc je me suis intéressée au cas Eichmann avant, mais il me manquait, et je pensais que Arendt s'était assez largement laissé abuser par la défense d'Eichmann, parce que suivre les ordres, c'était une défense, c'est une défense très classique qu'il y avait à Nuremberg, qui a été utilisée en Argentine, c'est juste la défense standard qu'on a dans ce style de procès. J'avais peu d'éléments matériels qui me permettaient de prouver cela, mais il y a eu une série de facteurs. D'abord, il y a eu l'excellente biographie d'un historien, David Cesarani, qui a fait une étude en 2005, Becoming Eichmann, donc Devenir Eichmann, où il montrait le devenir de Eichmann, et qui montrait que Eichmann n'avait absolument rien du personnage falot et clownesque qu'avait décrit Arendt, ce que déjà d'autres historiens avaient dit avant lui, comme Hilbert, mais bon, voilà, il y avait une forte documentation sur un nombre de ressources, un nombre de capacités, et puis la faiblesse de la machine dont ils disposaient. Donc l'idée, il n'y avait pas d'ordre, ils avaient très peu de bouts de ficelle, et c'était un homme de négociation, c'était un homme de terrain. Donc voilà. Donc ça, il y avait l'œuvre de Cesarani. Et puis il y a eu donc ces entretiens où je me suis donc rendu compte que on pouvait avoir tous les éléments du système du crime bureaucratique sans une défense par la bureaucratie. Et que les défenses, elles sont relatives au chef d'accusation et aux fins que visent les accusés. Eichmann aurait pu se défendre autrement, il aurait pu plaider coupable, renier le nazisme, mais il ne voulait pas, il ne le fait pas, il ne veut pas. Et donc, j'ai été amenée aussi, enfin, l'année donc, du 50e anniversaire du procès Eichmann, on a eu la chance que ont été mis en ligne les vidéos du procès. Et donc là, on peut à la fois lire sur un site qui s'appelle le site NISCOR, la retranscription des auditions, et puis on peut le voir, et on voit la différence. On voit aussi donc, ce que Arendt n'a pas assisté à la défense d'Eichmann. Donc elle a juste eu le compte rendu écrit, mais elle n'a pas vu Eichmann qui se défend. Donc là, on voit quelqu'un qui dit debout devant une salle remplie d'Israéliens, mais vous comprenez, j'étais quelqu'un de tellement falot, de tellement timide, que jamais je n'aurais osé tenir tête à qui que ce soit. Ça faisait juste 2 mois qu'il tenait tête au procureur. Donc il y avait, on voit des contradictions performatives, quelqu'un qui explique avec beaucoup d'agilité intellectuelle qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, qu'il ne pense pas, voilà. Donc. Et donc j'ai repris la défense d'Eichmann à cette lumière-là, et donc en la reprenant un petit peu systématiquement, je me suis rendu compte que, beaucoup plus profondément que je ne le pensais initialement, l'analyse d'Arendt de la banalité du mal était vraiment la reprise de la défense d'Eichmann dans sa complexité juridique. Donc c'est là qu'il répond, je n'avais pas de pensée. Rien, aucune pensée, je ne pensais pas. Et donc, on voit que c'est lui-même qui a théorisé cette absence de pensée et que d'automate obéissant, parce que c'était la seule échappatoire pour éviter à la fois de se condamner et éviter le type de défense qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire de plaider coupable profondément et de renier le nazisme, ce qu'il ne voulait pas faire. Le travail que j'ai fait où j'ai été guidée quand même par la philosophie du langage, il y a un projet assez explicite chez Wittgenstein, mais aussi chez Quine, de dépassement du solipsisme épistémique et sémantique, en considérant qu'un certain nombre de faux problèmes philosophiques viennent d'une mauvaise position des problèmes. Et plus j'avançais dans mon enquête de terrain, plus j'étais quand même confrontée à ça, c'est-à-dire le fait que une certaine éthique du don, une certaine éthique, une certaine manière de poser les problèmes en éthique internationale ou en éthique de tout court était toujours vue du point de vue du donateur et jamais du récipiendaire. On avait un discours moral et politique qui reposait sur des présupposés solipsistes et d'enfermement en soi-même. Le plus évident et qui est assez parlant, c'était le fait, j'étais en Bosnie au moment du retour des réfugiés chez eux, et où on essayait de faire en sorte que les gens rentrent chez eux, notamment du retour des minorités, donc que les bosniaques musulmans rentrent dans la partie serbe et réciproquement. Et donc un effort de reconstruction d'une société à l'envers, donc pas à partir de zéro, mais à partir d'un état de guerre où le travail c'est de ramener les gens chez eux. Et là on se rendait compte que tout un ensemble de catégories politiques auxquelles on était habitué, mais fonctionnait absolument pas. Bon, d'abord, et c'est donc pas uniquement Rawls que j'ai pu remettre en question, bon, prenons par exemple le cas rawlsien. cette présupposition, mais qui m'a toujours étonnée, qu'on présuppose qu'on est entre soi, je ne suis pas la seule à avoir fait cette critique, hein, des auteurs cosmopolitiques l'ont fait, mais on présuppose qu'on est entre soi. Et donc là, j'avais affaire et que les gens si, sont sur un territoire et qu'ils vont y rester. Donc, j'avais affaire à un pays qui avait été vidé de sa population largement, où beaucoup de gens ne voulaient pas rentrer. Et il y avait des parties de pays vides parce que tout le monde avait été tué, parce que personne ne voulait rentrer. Et si on avait ouvert les frontières, mais le pays se serait vidé. Donc, il y avait tout un ensemble de présupposés, mais qui n'étaient pas seulement ceux de Roche. Je dirais que toute une partie d'une philosophie, parce qu'il y a alors, c'est peut-être pas du solipsisme, mais une forme de nationalisme méthodologique totalement inconscient chez des auteurs communautariens comme Sandel, où on présuppose qu'on est entre soi, qu'on a des attachements. On se rendait compte que le type d'analyse qu'il proposait ne fonctionnait absolument plus si on avait été arraché de chez soi et qu'il fallait, la question était de revenir. Donc, c'est quasi empiriquement, mais n'importe quelle personne, je veux dire, les sociologues d'immigration font la même catégorie. Nous avons des catégories de pensée qui sont liées à l'attachement d'une population à un territoire et qui font comme s'il allait de soi, alors que c'est très difficile de faire rester les gens quelque part. Et c'est très difficile parfois de les empêcher d'aller ailleurs ou de les faire revenir. Et donc, il y a tout un ensemble de mythes, comme ça, le mythe du retour, ou le mythe de l'attachement, qui sont des mythes. Je pense que d'avoir vécu en Bosnie, dans un pays où l'État s'était largement effondré, m'a vacciné des rêves cosmopolitiques. C'est très confortable d'avoir un État qui fonctionne. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un État qui fonctionne. Alors, voir l'État comme une machine qui sédentarise, je pense que c'est une vision française. Mais il y a beaucoup d'États qui ne sédentarisent pas, il y a des États qui favorisent la migration pour favoriser des rentrées d'argent. C'est une conception de l'État historiquement déterminée, il ne pourrait y en avoir d'autres, elle ne me semble absolument pas une forme de stabilité de la population, oui, mais de sédentarisation, pas nécessairement. On peut avoir des populations nomades à l'intérieur même d'un État. Et surtout, on a, me semble-t-il, un décalage encore très fort de la philosophie politique, qu'elle soit rolsienne ou post-rolsienne, parce que les cosmopolitiques post-rolsiens sont aussi critiquables de ce point de vue-là, qui n'arrivent pas à penser à la fois la sédentarité et la migration, et l'État et les migrations. Et dans mon dépassement du solipsisme, si on tue le solipsiste, c'est facile, hein, il y a moyen de dépasser le solipsiste, on tue le solipsiste, on tue l'État, il n'y a plus de problème. Bon, voilà. Mais j'essaye de voir comment penser un État globalisé. Ce n'est pas la seule réponse, on pourrait penser autrement. Donc, dans une expérience que je propose, en partant de la position originelle de Rawls, on change une variable. Alors, la variable qu'on change, c'est qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas si on est sur son territoire ou si on est à l'étranger. Et donc, on fait tout de suite l'expérience de la possibilité de la politique étrangère. Hein. Et cette modification-là, elle est, après tout, elle peut être considérée comme minime. On voyage tous. On peut tous être amenés à être à l'intérieur de nos frontières. Il y a des Français de l'étranger. Tous les pays ont des citoyens à l'étranger. Donc, après tout, ça n'a rien de révolutionnaire dans le fonctionnement politique. Donc, la nouveauté apparaît nouvelle par rapport à un discours politique, mais pas par rapport au fonctionnement de nos démocraties. Bon. On a des Français qui votent à l'étranger. Bon. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, et la République française ne s'effondre pas pour autant. Mais on voit bien qu'est-ce que ça change au point de vue de la réflexion. La réflexion change parce qu'on est toujours obligé, à chaque fois, de se dire « mais si j'étais à l'étranger ?» Si quand on va lever le voile d'ignorance, j'étais à l'étranger. Alors, ça veut dire que je suis obligé toujours de réfléchir à la politique étrangère en même temps qu'à la politique. Je ne vais pas devenir nécessairement cosmopolitique. Je peux rester un nationaliste agressif. Simplement, je prends un risque. C'est-à-dire que si je lance des bombes sur le pays d'à côté, il y a un risque que ce soit moi qui les reçoive. Donc, c'est une question d'intérêt, comme chez Rawls. Par intérêt, on va améliorer la position du français à l'étranger. Donc, indirectement, on va améliorer la position du possible étranger à l'étranger, et donc de l'étranger. Et donc, mon idée, c'est de faire en sorte qu'à chaque moment de la délibération, on soit obligé de tenir compte des effets, qu'il n'y ait pas de séparation possible entre la politique étrangère et la politique intérieure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je sois une forme d'externalisme, un externalisme de la signification. Là, c'est un externalisme de la citoyenneté. La citoyenneté va se définir par, également par qu'est-ce que c'est que je décide si je me retrouve en position d'étranger à l'étranger. Et si, avec une donnée supplémentaire, là, qui n'est pas liée à la Bosnie, mais qui est que certes, on prend pour acquis que le sol de notre territoire existe, mais on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a des pays dont le territoire peut être submergé. Qu'est-ce qui se passe si, une fois le voile d'ignorance levé, la totalité de la population est en exil et le territoire est sous l'eau? Donc on est obligé de thématiser ce que Rawls place dans des conditions de justice qui lui, sont tenues pour acquises. Il ne les remet pas en question. Même dans le droit des gens, il ne les remet pas en question. Donc, avec Rawls, on ne sait pas ce que seraient des peuples sans État. Donc, on ne sait pas. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est des formes de paradoxe. C'est pas, il faut abandonner Rawls, mais prenez au sérieux la position que je vous propose, hein, de non-solipsisme, et vous verrez que vous pourrez avoir une meilleure défense de Rawls que celle qu'il propose lui-même. Puisque c'est un petit peu un des paradoxes que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que, par exemple, beaucoup de gens qui disent Rawls, le voile d'ignorance, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens de dire qu'on ne sait pas si on est noir ou blanc, si on est un homme ou une femme. Bon. Mais tout ce qui apparaît inepte, insensé, quand on est tranquillement installé en France, entre Français, où on connaît son identité sociale, tout ça, ça devient parfaitement crédible quand on est en position de retour. Si on a passé 10 ans en exil dans un pays qui n'a rien à voir, qui est très féministe, on ne sait pas si dans le pays de retour, on sera considéré comme étant un homme ou une femme selon ses mœurs sexuelles. Pour le dire simplement, Obama, il n'est pas noir, hein, en Afrique. Le caractère construit des identités sociales va dans le sens de Rawls. On peut avoir une vraie ignorance sur son identité sociale. Et donc, le but, c'est un peu de dire, hein, c'est pas forcément de critiquer Rawls, c'est de dire, regardez, si vous prenez au sérieux une position de non-solipsisme politique, ça va vous amener à une réforme de vos modes de pensée qui va rendre bien plus crédibles des positions apparemment insensées comme l'ignorance qu'on aurait de soi-même et qui montre que finalement, la prétendue stabilité, attachement à des identités historiques, nationales, c'est une vue de l'esprit et ça suppose des sociétés stables qui ont peu de migration ou en tout cas qui s'inventent des romans nationaux. Je voudrais pouvoir mener à bien ce projet de dépassement du solipsisme politique et moral, puisqu'il y a un volet moral que je voudrais pouvoir développer. Et je voudrais le mener à bien. Aussi, toujours un peu en prenant mes distances vis-à-vis d'une certaine catégorisation habituelle, je ne me reconnais pas du tout dans le débat entre, rôlesien et post-rôlesien, cosmopolitique et pas cosmopolitique, dans la mesure où quand même le fil que j'essaye de tirer serait plutôt celui d'un internationalisme méthodologique. On a une réalité première qui est celle du droit international. Nos États, ils n'existent pas s'ils ne sont pas reconnus, si on n'est pas. On est déjà dans une. On y est dans le non-solipsisme. C'est juste qu'on ne sait pas voir. Donc il faut déjà commencer à voir, à arriver à décrypter la réalité dans laquelle on est, qui est que l'existence de l'État, et c'est un être juridique reconnu ou en contact avec d'autres États. Sans ça, il n'y a pas d'État. Donc, et on vit dans un monde tissé par le droit international. Et donc je voudrais arriver à mener à bien à la fois cette relecture du droit international à la lumière donc, de ce projet de dépassement du solipsisme politique, donc plutôt dans une veine donc, disons, d'internationalisme méthodologique.
Merci, parfait.